Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et l'on retrouve Serge Mariani pour Jazz Interview. Bonjour Serge.
Bonjour Julie, une nouvelle Jazz Interview, je vais vous dire dans quelques instants avec qui ou à qui elle est consacrée. Mais d'abord un peu de précision, un peu de géolocalisation. Commune du Val d'Oise, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris, peuplée d'un peu plus de 20 000 habitants, Montmorency compte parmi ses citoyens d'honneur historique un nombre certain d'artistes. Et parmi les musiciens, citons Jean-Jacques Rousseau, oui, Richard Wagner, et la violoniste virtuose, que je ne connaissais pas, pardon, Yvonne Lefay-Berthoise. Mais combien de musiciens de jazz la ville de Montmorency a-t-elle vu naître ? A priori, un seul à ce jour, c'était en 1992 et il est là avec nous aujourd'hui, c'est Martin Joey Dean ou Martin Joey Dine, on verra selon le contexte. À 6 ans, au lieu de lancer des noyaux de cerises dans les carreaux du voisinage, le petit Martin jouait du piano. On le retrouve quelques années plus tard à Tours, où il s'initie au jazz, puis à Paris avant un exil musical au pays du ragtime, du bebop et du free, les USA. Ses mains semblent dotées de bien plus de doigts qu'il n'est nécessaire pour courir d'un octave à l'autre, à Philadelphie ou à New York principalement. Le jeune Martin plonge à clavier perdu dans le grand bain de la musique improvisée et des standards. Il passe de l'ambiance des clubs à celle des studios. Deux albums, trois albums même sont enregistrés, brassant les styles et les inspirations, et un quatrième, j'ai eu un problème d'arithmétique cette nuit. Un quatrième est en préparation. C'est de tout cela que nous allons parler durant les 3-7, en revanche, il y a bien 3-7, de cette nouvelle jazz interview. Bonjour, Martin Joey Dine. je suis en train de mélanger les langues. Hello, Martin Joey Dine.
Je le fais en anglais ou en français ?
C'est comme tu veux. Okay, bah, on se tutoie aussi, parce que sinon, je commence par vous voyez, puis après, je vais encore me...
coucou Serge, coucou Julie, merci beaucoup de l'invitation à Art District. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui.
C'est pas fini l'émission encore. Hein,
d'accord.
Pas obligé de nous remercier tout de suite. Faut même m'attendre un peu, parce que... J'ai l'impression que tu as le célèbre tabouret qui descend.
Oui.
Parce qu'ici, il n'y a pas de coussin qui fait du bruit bizarre. Il y a par contre un tabouret qui descend, donc je vais raconter une histoire pendant ce temps-là. Non. Voilà, le tabouret est fixé, c'est mieux quand même, parce que si je vois que juste la pointe des cheveux, ça va quand même être un peu moyen pour faire l'interview. Alors, donc, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, pourquoi, on a compris que tu t'étais allé aux États-Unis, notamment, et donc, en fait, parce que Dean, c'est bien français.
C'est un nom, oui, bien sûr.
D'accord, il n'y a pas une famille, comme ça peut arriver aussi, notamment chez les musiciens de jazz, parfois des couples mixtes, on va dire, franco-américains ou...
Non, moi je ne suis pas du tout franco-américain. Ma mère est d'origine, elle est née en France, mais mes grands-parents sont d'origine italienne.
D'accord.
Et mon père est français, avec mes grands-parents d'origine française. Mais mon deuxième prénom, c'est Joey, donc Joey, avec un Y. Qui est aussi maintenant Martin Joey Dean, mon nom d'artiste.
D'accord.
Voilà.
C'est ça, c'est le vrai prénom. C'est un vrai deuxième prénom, c'est pas un surnom as récupéré à l'occasion d'une jam ou je sais pas quoi.
Pas du tout, non, ça. Ça aurait pu.
Oui, bien sûr, mais c'est souvent le cas. Ouais.
Non, c'est mon deuxième prénom et du coup, c'est Martin Joey Dean, c'est mon nom de scène, quoi, aussi maintenant. Je l'utilise tout le temps et les gens me catégorisent avec ce prénom-là, ce nom-là. Mm. Voilà.
Alors, on va prendre une piste comme une autre pour commencer cette interview. On parlera évidemment en détail du quatrième album donc, qui est en perspective très prochaine avec une campagne de participation, de
récolte de fonds, ouais,
crowdfunding en cours et encore en cours jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais moi, il y a un thème qui me paraît important chez toi et qui revient notamment avec le titre, si c'est bien le bon titre, du prochain album, c'est l'enfance.
Alors, Throwback to Childhood, c'était mon troisième album qui est sorti en digital. Ouais. Il faut savoir, par rapport à ma discographie, que là, pendant 8 ans, j'ai énormément, depuis le début de ma carrière, en fait, parallèlement à mes études, j'ai énormément travaillé, j'ai produit 3 disques. Le premier s'appelle Wario, tu dois l'avoir entre
absolument.
Les mains.
Absolument. En très peu de temps, cette production assez conséquente.
J'ai enregistré quand j'avais peut-être 20 ans,
à peine, ouais.
19-20 ans. Mm. Le second s'appelle Copperfield. Et le troisième s'appelle Throwback to Childhood.
Voilà.
Il y a deux CD qui sont sortis en physique et le troisième est donc sorti en digital. C'était un test pour moi pour voir comment ça réagissait vis-à-vis de la fanbase, les gens qui me suivent et voir si ça leur plaisait aussi d'avoir quelque chose de dématérialisé.
Uniquement. Et alors ?
Et alors, je suis plutôt satisfait. Ouais,
parce que moi, j'aime bien le physique. Là, c'est
moi
pour
aussi,
ça. Mais moi, je suis pas de la même génération.
Non, mais moi aussi, c'est pour ça que voilà, pour le quatrième qui va s'appeler Boss Attends, on partira sur un CD et un vinyle.
D'accord.
Parce que j'ai envie de faire les choses en grand maintenant.
Ah oui, carrément aussi le vinyle qui est très, très, très tendance. Retour du vinyle en force même.
Ouais.
On dit que le vinyle serait plus vendu. Alors peut-être ça dépend des genres musicaux, mais plus vendu que le CD notamment.
Voilà, ça peut être le cas. Ça dépend. Des styles, ça dépend bien sûr de plein de choses.
Oui, alors donc quand même, moi je me raccroche à cette thématique de l'enfance. Commencer le piano à 6 ans, je vais pas dire que c'est banal, parce que mais en soi, c'est pas forcément le plus extraordinaire. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que un enfant, moi je me suis intéressé à la musique aussi, mais pas aussi jeune, bien sûr, et surtout je n'ai pas pratiqué un instrument aussi jeune. Comment est-ce que ça s'installe? Comment est-ce que ça vient? Est-ce que c'était tout de suite le piano? Ou est-ce que tu étais un peu hésitant sur j'aime la musique, je suis sensible? Est-ce que d'abord tu baignais dans une atmosphère musicale?
Un petit peu. Mon père est luthier.
Ouais.
Il jouait de la flûte. Ma mère écoutait Jazz à Fip, notamment quand j'étais dans son ventre.
Ah, elle n'écoutait pas Art District?
Pas encore, ça n'existait pas. Mais j'ai eu un professeur de piano et je faisais de la guitare et du piano et ce prof m'a donné une passion en fait de la musique très tôt. Et très tôt, en fait, vers 6-7 ans, je commençais déjà à jouer des standards de jazz et à improviser. Et donc vers 8 ans, je savais que je voulais être musicien et j'ai composé très vite aussi de la musique.
Oui, en effet, parce que oui, c'est ça, c'est pas tout de jouer même très très bien, composer, c'est encore une autre affaire. Ça, c'était une volonté aussi très...
Ah, c'était naturel, c'était pas forcément une volonté, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Tu vois, quand t'as besoin de t'exprimer, peu importe ce que tu ressens, tes peurs, tes joies, il faut les exprimer sur un papier, il faut les exprimer en improvisant. Et la musique de jazz, c'est pour ça que je l'apprécie énormément et que je suis passionné, c'est qu'elle permet justement cette... se laisser aller en fait, que ce soit en composant ou en improvisant, on peut très vite s'exprimer et donner des émotions aux gens. Ça me plaît.
Ouais, sur peut-être tous, je sais plus, j'ai pas les titres en tête, mais sur certains de tes déjà 4 bientôt albums, il y a des reprises en effet, des standards. Il y en a même un peu, si j'ai bien compris, un peu étrange. Enfin, étrange, insolite, qui est Nardis Resolution, c'est ça ? Qui est à la fois pour Miles Davis et pour John Coltrane.
Ouais, c'est un hommage croisé.
Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hommage croisé ?
Ben, en fait, je crois qu'à cette époque-là, c'était pour mon premier disque, donc j'avais peut-être 19-20 ans, j'avais fait un voyage à New York, c'était en peut-être 2012-2013, et je m'étais inspiré aussi de la scène new-yorkaise à ce moment-là, du fait qu'on puisse jouer des pianos dans la rue. Et j'ai rencontré énormément de musiciens. J'ai aussi, à ce moment-là, fait des jam sessions dans l'hôtel particulier de Mingus, qui était situé dans la 52e rue, si je ne me trompe pas. Et donc, ça m'a énormément apporté. Et j'ai été influencé, en fait, par ça. Et quand je suis rentré et que j'ai enregistré ce disque à Rochefort avec des musiciens extraordinaires, Rémi Vignolo, Daryl Hall, Baptiste Herbin, Maxime Berton, j'ai eu envie, en fait, de faire un hommage croisé aux musiciens qui me font vibrer, hein, que ce soit John Coltrane ou Miles Davis, c'est des musiciens que j'écoutais quand je jouais du piano, quand je travaillais,
En revanche, ce ne sont pas des pianistes.
Non. Alors moi, j'ai très peu de connexion avec les pianistes, même si j'adore écouter des pianistes. Mais ma musique composée entre guillemets vient plus des influences du saxophone, de la trompette, de la basse, des groupes de funk aussi des fois, ça dépend en fait, c'est un peu de tout. Et les pianistes, c'est plus pour le toucher. En fait, j'essaie de dégager un toucher intime mais aussi original que j'ai développé avec le temps et avec le travail, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Et ça, c'est plus en écoutant des pianistes. Essentiellement Petrucciani, Bill Evans. Voilà.
D'accord, oui, en effet.
Et les pianistes de bebop aussi.
D'accord. Et parce que on dit souvent que donc ça veut dire que tu serais plus sensible à la voix presque, je dirais. Parce qu'on dit souvent que le saxo, etc., les instruments, on souffle. On est plus proche de l'expression du corps direct et de la voix.
Oui, à tel point que sur ce nouvel album Boss Attends, pour laquelle J'organise une campagne de crowdfunding qui se terminera le 31 juillet dans un mois, donc vous avez un mois pour participer. Il y a une grande part à la voix, mais à la voix cette fois-ci féminine.
Oui, il y a du chant,
il y a du chant, il y a j'ai composé des paroles, j'ai composé tout ça.
Voilà, avant d'aller plus loin et notamment sur le projet d'album du nouveau, on va faire une première pause musicale. Martin, peut-être justement on peut écouter le titre avec la chanteuse qui
voilà.
Sort le prochain.
Donc c'est un titre qui comprend une chanteuse qui est taïwanaise qui s'appelle Yanting Lo. Et on a enregistré un titre qui s'appelle Summer in April, qui veut dire l'été en avril.
Voilà, ça arrive parfois, oui.
I don't know why I shouldn't. The girls are wearing dresses in their best, peaceful color and mess. I bike through the pinky street, look at the birds and a can of drink. Clouds are fully colored, I must say, by the sunny spring. So gay. Look at the sky, it's ever blue. Give me your hands, would you? The color of a love story. Summer that will ring to our years like a spring. Girls are wearing dresses in their best, peaceful color and mess. I bike through the pinky street, look at the birds and the candle drink. Clouds are fully colored, I must say, by the sunny spring so gay. Look at the sky, it's ever blue. Give me your hands, would you? The color of a love story.
C'était donc Summer in April, à peu près correctement prononcé, qu'on entendra, qu'on pourra entendre et réécouter tout le temps sur le prochain album de Martin Joey Dean, ou Martin Joey Dine, qui est notre invité dans Jazz Interview aujourd'hui. Deuxième set de cette jazz interview. Martin, si on parlait un peu du séjour américain.
Alors, il faut savoir que j'étais à ce moment-là au CRR de Paris, donc Conservatoire Rayonnement Régional de Paris. J'avais Benjamin Mousset en tant que professeur de piano. Et je jouais beaucoup avec un musicien qui est cubain, qui s'appelle Damian Nueva, et avec Pierre Chastel. Et en fait, à un moment donné, on a décidé de partir à New York parce que quand on a 18-20 ans, vous voyez, et qu'on a des rêves plein la tête en tant que musicien de jazz, on a envie de partir voir ce que c'est que la Big Apple. Et ça a été le cas. On a pris le billet d'avion, on est parti.
Puis avec quelqu'un, qui est cubain. Enfin, je veux dire, c'est aussi beaucoup
parti,
de.
On n'est pas parti. Je suis pas parti avec Damian, mais on jouait à ce moment-là avec un trio. On a fait le tremplin du Sunside.
Ouais.
Et c'est peu après en fait qu'on est parti avec Pierre à New York, notamment à Harlem. On était dans une sous-location, donc comment il s'appelait, Leven Venken, un batteur belge. Oui. Qui habitait là-bas, et c'était vraiment extraordinaire de voir ça. On était près de Central Park en plus, donc il y avait pas mal de clubs, et puis on a été très très bien accueillis dès le début.
Voilà, donc on est en quelle année là, Martin?
2012.
D'accord.
Ouais.
Et est-ce que tu débarques, on peut dire, en New York en 2012? Donc tu as 20 ans, si je calcule à peu près correctement.
À peu près.
Comment est-ce que tu ressens les choses? Est-ce que l'accueil, la communauté jazz tout de suite est totalement ouverte, accueillante?
Ouais, absolument. Je ressens de la compétition, en fait, dès le début quand même. Il y a un truc comme
c'est
ça.
C'est quand même les États-Unis.
C'est surtout New York, en fait, parce que peu après, quand j'étais parti à Philadelphie, j'ai pas ressenti ça de plus marqué. Mais à New York, quand je suis arrivé, il y avait un côté un peu peut-être compétitif qui était un peu bizarre pour moi à ce moment-là. Et je me rappelle, Central Park, Harlem, le soleil, il faisait très très beau, très chaud, les gens dehors qui écoutaient la radio, différents clubs, le Cleopatra's Needle, le Smalls, le Fat Cat, le 55. On a joué pas mal de fois dans les jams, on a joué aussi au Shrine, on a eu 3 dates là-bas, on a eu au Shrine, on a joué au...
c'est le trio, c'est le
trio, voilà. Avec un contrebassiste qui avait enregistré pour Blue Note qui s'appelle Edouard Pérez, avec qui on a enregistré, on a joué donc avec Pierre Chastel, moi, et puis ce contrebassiste Edouard Pérez, et puis on avait joué dans le club qui a été repris après par la direction artistique de ce club-là a été repris par Tony Tixier. C'était je crois que c'était le Miles Café au début, et ça s'appelait maintenant Something Jazz Club, et ça a fermé. Mais à l'époque, on avait joué, et je me rappelle que c'était très dur parce qu'on avait joué pour 2 personnes dans le public. Donc on avait été payé une vingtaine de dollars.
C'est pas mal déjà. Parce que des fois, ici, tu joues pour 80 personnes et t'es payé 20 euros aussi. Je connais
ces
anecdotes.
C'est bien
désobligeant.
C'est bien désobligeant.
Ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Ouais, donc il n'y a pas de. Comment dire? Ça reste extrêmement vif, la jam.
Le niveau est. Bah, surtout à ce moment-là, j'ai pas totalement mes armes. Je suis pas totalement prêt à. Donc je me prends une claque. Et parallèlement à ça, je suis pas mal dans ma période geek aussi, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, que ce soit la musique de jeux vidéo, les jeux vidéo. D'ailleurs, mon premier album s'appelle Wario, c'est inspiré de Mario.
Mario, bien sûr. Ouais.
Donc j'étais à ce moment-là sur World of Warcraft, et je jouais beaucoup à ce jeu-là, et je geekais dans ma chambre avec le Wi-Fi. Ouais. Et puis je suis peut-être passé à côté d'expériences que j'aurais pu réaliser, mais en même temps, voilà, j'avais 19-20 ans, et j'étais très geek.
Ouais.
Dans l'approche.
Oui, bien sûr.
Mais ça ne m'a pas empêché de sortir et de jouer peu partout.
C'est drôle que tu dises ça, parce qu'en revanche, il y a des musiciens, enfin c'est ma perception après, il y a des musiciens dans lesquels on sent ce genre de, même dans leur musique, dans leur façon de jouer, alors après dans les instruments qu'ils utilisent, etc. Il y a un côté geek ou hyper techno. Toi, non, je trouve.
Non, moi, c'était... les jeux vidéo, c'était... j'ai pas trop envie de parler de ça, mais... si je dois, je vais le faire. Hein.
Non, c'est une échappatoire. Non, c'est une
c'était
parenthèse.
Tu dis le mot, tu vois, c'était un échappatoire pour moi. Ça me permettait aussi de décompresser, parce que j'ai eu des périodes dans ma jeunesse, je peux le dire maintenant que j'ai 27 ans, où je travaillais énormément le piano, que ce soit 6, 7, 8... heures par jour, je faisais que ça, que ce soit tout seul, mais aussi pendant les soirées avec mes amis où je jouais, où je travaillais la musique. Donc il y a eu un moment où j'avais aussi besoin de passer à autre chose, et les jeux vidéo m'ont permis de sortir de ça. Et très vite, j'ai aussi compris que c'était une perte de temps. Donc j'ai arrêté.
Oui, ça a ses limites quand même. Ah, oui, ça peut être une source d'inspiration.
Mais vous voyez, il y a plein de musiques de jeux qui sont assez, ouais. Qui m'ont assez influencé en fait. Ouais.
Mais d'ailleurs, il y a des
que ce soit de la musique classique
qui reprennent, oui, bien sûr,
ou des choses comme ça. Ouais. Musique de film, musique classique, j'ai été beaucoup, beaucoup influencé aussi par les films de Tim Burton, tout ça.
Ouais, ouais.
Et pour revenir aux États-Unis, ouais.
Donc la période américaine, c'est de 2012 à.
À 2012. j'ai passé un mois là-bas, je suis rentré en France.
D'accord, ok. Parce
là, que... j'ai eu un an d'errance où j'essayais de donner des cours, mais j'arrivais pas, j'avais pas de sous, j'étais compliqué.
Ouais.
Alors, on m'appelait pas assez, donc après, je suis parti à Amsterdam étudier, voilà. J'ai fait 4 ans là-bas. Et en 2018, je suis reparti à Philadelphie pendant 5
voilà,
mois, et
d'accord.
Là, ça a été carrément autre chose au niveau de.
Mais là, dans un cadre hyper sérieux avec l'université, c'est ça hein,
ouais,
c'est
j'étais
ça
à Temple University et ouais, j'étais en colocation avec Steve Perry et Joe Anderson, donc pas Joe Anderson, le saxophoniste, mais le trompettiste de Philadelphie. Et c'était vraiment, vraiment top aussi. On a rencontré plein de gens, les gens étaient très, très ouverts. Je déplore un peu le fait que ce soit Trump qui a été président pendant que j'étais là-bas, si je peux me permettre.
Je ne sais pas s'il y a un lien, tu crois que...
J'en sais rien, mais bon, c'était très. Il y avait un côté un peu bizarre des fois,
ouais,
la police qui tournait avec un côté un peu anxieux. Mais bon, très vite, j'ai pris mes marques. Et ce deuxième voyage aux États-Unis m'a permis de vraiment décoller au niveau pianistique, quoi, au niveau toucher, musique, skills. Stride, enfin j'ai vraiment évolué dans tous les domaines et tout, vous voyez, je vois des fois la progression comme vous voyez des potards dans un mixeur d'un ingénieur du son, bah là tous mes potards étaient un peu plus haut après ce voyage quoi.
D'accord. Martin, on va faire une deuxième pause. Et comme on a évoqué pour l'histoire du club Tony Tixier, pourrait peut-être en écouter quelque chose de lui, non ?
Ouais, bien sûr. Alors Tony, c'est un peu mon grand frère, c'est quelqu'un que donc je suis fier de parler de lui aujourd'hui parce qu'il c'est quelqu'un qui mérite de la reconnaissance. C'est un bon ami, on a joué ensemble plusieurs fois et puis il a toujours des bons conseils à me donner. Donc j'aimerais qu'on écoute de son album en trio Life of Sensitive Creature le morceau qui s'appelle Tight Like This.
Ok, et ben on l'écoute tout de suite. Tight Like This, ça voudrait dire droit comme ça. Et c'était de Tony, c'est toujours de Tony Tixier, très proche ami pianiste de notre invité de cette jazz interview. Troisième et dernier set maintenant. Martin Joey Dine, nous allons parler du quatrième album. Il en est où d'ailleurs au niveau
il est en
production?
Il a été enregistré, on a fait la post-production. Là, il va être donc après en fonction des revenus de la campagne de crossfunding sur Ulule.
Je
tiens à le préciser, c'est le site, c'est pas KissKissBankBank, c'est Ulule, c'est un site européen qui fait exactement la même chose. Grâce à cette cagnotte, si on y arrive dans un mois, là, aux 5000 euros, il sera mixé, masterisé, pressé, en CD, en vinyle. Il sera diffusé, il sera promu.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien parce qu'en même temps, ça donne une idée chiffrée. C'est important, je trouve, de ce qui est nécessaire pour faire un album digne de ce nom, quoi.
C'est très cher. C'est très cher. Ouais. Et voilà, moi, je parle. Je parle
là, on ne parle que de la post-prod, hein, on est bien d'accord. Et de la promotion.
Là, on parle, en fait.
Le montant que tu as évoqué.
Voilà, le montant que j'ai évoqué, c'est 5000 euros. Là, pour l'instant, on a 320 euros. Il reste 36 jours. Il y a 6 contributeurs, 6%. Donc tout est possible.
Ah, bien sûr.
Et ces 5000 euros, en fait, ça partira dans le mixage, dans le mastering, dans la couverture de l'album, le photoshoot, le graphisme, le design du CD et du vinyle, la réalisation du packaging et l'impression, et le pressage à 500 exemplaires du CD,
voilà.
Et peut-être à 300 exemplaires du vinyle, le paiement des sociétés de droits et d'auteur et de SDRM,
oui,
et surtout, un des aspects les plus importants, engager une attachée de presse ou un marketing digital,
on dit utile,
PR
oui.
En fait,
absolument.
Pour promouvoir
public
le CD,
relation,
voilà, qui sortira dans les bacs cette fois-ci. Donc, je suis très très content.
Ah, oui.
Ce sera sur le label Music Box Publishing et ça sortira distribué par Believe en digital.
D'accord. Alors maintenant, intéressons-nous non pas à l'enveloppe mais au contenu. Dans cet album, qui y a-t-il?
Donc le titre en fait c'est deux en un, donc déjà j'aimerais dire que c'est un album qui parle d'amour sur six morceaux avec Yan Ting Lo, donc la chanteuse taïwanaise.
D'accord.
Avec qui j'ai enregistré, mais qui parle aussi de la scène new-yorkaise, comme je suis toujours influencé par Ben Wendell ou par des musiciens comme ça. Il y a à peu près huit morceaux qui sont enregistrés donc avec une équipe internationale, hein. Donc il y a Luca Martinez qui est un saxophoniste ténor espagnol, il y a José Suarez qui est un saxophoniste alto portugais, il y a Léa Chiselski qui est de Tours, on s'est rencontrés à Tours, il y a Pierre Balda qui est suisse, et il y a Rope Kantonen qui est finlandais.
Ah,
et
c'est
moi,
quand
donc,
même voilà,
fait
c'est,
des compositions.
C'est l'ONU, c'est l'orchestre de c'est le jazz band de l'ONU.
L'ONG
Ah oui, l'ONG aussi. Ouais.
Non,
c'est bien, c'est super international, mais c'est de plus en plus comme ça, je constate.
Voilà, c'est un peu européen, mais en même temps très très influencé par mon voyage de Philadelphie. Si on a le temps, on écoutera peut-être North Broad Street, qui est une rue à Philadelphie qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les titres. Donc...
Alors donc, on est en deux on est en deux parties. Il y a le côté vocal, on va dire.
Ouais.
Jazz vocal.
Qui est donc celui-ci très influencé par Michel Legrand.
Merci de le dire parce que j'allais faire une espèce de pas de critique, mais de dire comment j'avais ressenti ce titre-là chanté. Donc j'ai trouvé ça un peu entre Gershwin et Michel Legrand. Mais Michel
c'est
Legrand.
Très très surtout. Influencé. J'ai fait ma recherche de master sur Michel Legrand, donc j'ai parlé de lui en public en anglais à Amsterdam. Et en fait tout ça, la force de faire des pastiches de lui et tout, ça m'a énormément influencé. Et j'ai voulu moi dans mon propre travail. Sortir en fait la voix, et donc j'aimerais bien moi par la suite chanter, mais c'est pas le cas parce que ma voix est
totalement
mauvaise.
C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai lu quelque part que quelqu'un avait fait une critique je me demande si c'était pas le premier album, et il y a un moment parce que c'est sur le premier qu'il y a Wish Upon a Star,
ouais, de Disney,
Et là quelqu'un dit oui là et c'est un petit peu trop crooner.
Ah bah ça c'était les critiques de Jazz Magazine Jazzman en 2012, donc bon.
Mais ils avaient aimé, pas a priori.
Je sais pas.
Je crois que ça se terminait bien. Mais il y avait ça, disant oui, là, il fait peut-être un peu trop crooner et tout. Bon, why not. Mais c'est marrant que tu dises que tu t'aurais aimé ou tu aimerais chanter, mais bon. Après,
ouais,
là,
je vais pas le faire.
C'est une interprétation.
Non, je préfère en fait composer de la musique, des paroles en anglais ou en français, en italien ou peu importe, et les donner en fait à des interprètes. Là, en fait, la musique des les six chansons de l'album, donc le nouvel album Bossa Turns, qui va sortir peut-être en 2019 en décembre, j'espère.
D'accord.
Ça a été chanté par pas mal d'interprètes. Il y a Yael Watchman, qui est une chanteuse néerlandaise. Il y a Stephen Burst Jr., qui est un crooner de Philadelphie, qui a travaillé aussi dans le gospel. Et tout récemment, donc Yanting Lo, avec qui on a enregistré, qui est taïwanaise. Mais il y a aussi Martha Arpini. On vient de jouer à Jazz à l'évêché à Orléans. Elle s'est appropriée le répertoire d'une façon resplendissante. Ouais. Donc c'est de la musique qui tourne. J'aimerais bien que par la suite, ça devienne un répertoire que les gens s'approprient et qui jouent.
Bah bien sûr, bah oui, c'est quand même satisfaisant quand sa musique est reprise, et dans le jazz en particulier c'est quand même presque naturel en fait, mais il faut quand même que ça arrive.
Donc, se faisait beaucoup à l'époque, maintenant je sais plus trop.
Je sais pas à quoi ça serait dû, mais non, faut pas que ça disparaisse, c'est que ça fait passer comme la jam, de toute façon c'est lié. Oui, revenons à, donc ce both at once, ce deux en un. Donc la partie vocale, on vient de l'évoquer, et la partie donc plus strictement instrumentale, le projet, si on peut dire, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, et qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un sextet, un peu j'étais influencé énormément par l'album de Ben Wendell qui s'appelle j'ai plus le nom, un album noir et blanc, bref.
Moi, j'ai pas de mémoire. Donc,
que j'ai énormément écouté sur Spotify, où il utilise en fait les mesures asymétriques, le 5-8, les tournes de J. Dilla, les choses comme ça que j'adore. Et donc, il y a trois morceaux qui sont sur cet esprit. Et il y a des morceaux beaucoup plus rapides. Donc là, c'est plus en mode quintette de mice, peut-être avec Tony Williams, Ron Carter. Donc, c'est influencé aussi par ça. Et puis il y a une touche personnelle là-dedans, bien sûr.
Bien sûr.
Et une continuité aussi des albums précédents, que ce soit Wario, Copperfield ou Throwback to Childhood.
Ouais.
Donc voilà, mais j'espère vraiment qu'il sortira. J'espère que si vous nous écoutez, vous pouvez contribuer et repartir avec votre CD ou votre vinyle. Donc c'est sur Ulule.
C'est là que j'ai vu que si on met 3 000 euros, là on est carrément, on a deux concerts à chez soi. Enfin bon,
c'est la coproduction à ce niveau-là.
Oui, c'est la coprod, parce que 3 000,
vous récupérez des bandes même carrément.
Les propriétaires du master, copropriétaires en tout cas. Ouais, bah c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui va les mettre, hein. On ne sait jamais. Moi je voudrais revenir sur le, parce que ça c'est quelque chose qui va revenir. Je voudrais venir plutôt sur le live maintenant. De cette, quand tu joues déjà cette musique, quel est l'accueil? Comment ça se passe?
L'accueil est bon, je veux dire, on a joué en Suisse, on a fait des tournées en Lettonie, on a joué en France, on a joué aux États-Unis avec ce projet. Et en fait, bizarrement, c'est une musique qu'on a tournée pendant à peu près 2 ans avec l'équipe, qui a changé beaucoup aussi, je sais, mais... et qu'on a enregistré par la suite. Donc on n'a pas fait l'inverse, on n'a pas enregistré puis tourné, on a tourné puis enregistré.
D'accord.
Et donc l'enregistrement prend tout son sens, parce que du coup on était vraiment prêts à 100%, même à 200% j'ai envie de dire, pour enregistrer ce disque qui, j'espère, vous plaira.
Mais oui, ça va plaire. Que dire d'autre? Non, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai toujours une question qui vient comme ça souvent, on ne sait pas pourquoi. J'ai lu quelque part que tu aimais cuisiner, c'est vrai ou c'est pas...
T'as vu ça dans mon CV, non?
Dans un des CV, il court.
J'aime cuisiner, ouais. J'aime ça, je suis pas bon du tout en cuisine, hein. Enfin, je me débrouille pas, mais j'apprends en regardant, et puis j'aime ça, j'aime aussi le théâtre, j'aime le sport, j'aime le bien-être.
Ouais, non voilà. Mais la cuisine c'est important.
La cuisine aussi, ouais.
Cuisine aussi, bien manger. Composer de la musique, improviser, voilà. Et puis, c'est jazz quoi.
C'est ça, c'est un peu jazz.
Alors, Martin, on va se dire au revoir.
Ouais.
En écoutant un dernier titre pour cette émission, et puis quelque chose donc du prochain nouvel album, par exemple, on en a parlé je crois un petit peu.
Ouais, donc le titre qu'on va écouter s'appelle North Broad Street, donc une des rues principales de Philadelphie, dans laquelle j'ai été, qui relie en fait le nord et le sud de la ville, et qui passe par Temple University, donc l'université où j'ai étudié pendant 5 mois. Et voilà, c'est un morceau qui parle en fait un peu des gens qui jonchent les rues de cette ville.
C'est-à-dire ?
Non, je me trompe. des gens, de l'architecture, de l'atmosphère que j'ai ressentie quand je me suis baladé dans cette rue.
Ça ressemble à quoi ?
Il y a des gratte-ciels, c'est un peu à la new-yorkaise, vous voyez, c'est très... et en même temps, c'est très pittoresque par endroits, c'est très beau, il y a des endroits vraiment magnifiques, les gens sont super accueillants, moi j'ai vraiment... adoré ce séjour. Et du coup, j'ai composé un morceau pour la ville et pour eux.
Tu l'as joué là-bas ?
Je l'ai joué là-bas, à Chris Jazz Café, qui est un club de Philadelphie. Ouais.
Super. Bien, bon ben Martin, donc on se quitte avec ce titre. On rappelle qu'il y a une dernière fois, dans cette émission en tout cas, qu'il y a une campagne Ulule en cours jusqu'au 31 juillet. Et on la trouve facilement sur Ulule.
Alors, soit en tapant Martin Joedine, Boss à Toons, Ulule, sur Google. Soit sur mon site internet, vous avez un lien. Soit sur ma page Facebook Artiste, vous avez une vidéo qui tourne avec le lien. Et sinon, vous m'envoyez un message, un mail, et puis je vous répondrai.
Bien sûr. Au revoir, Martin.
Merci, Serge. Bye bye. Julie. Merci beaucoup.